Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Gabriel Attal prend la parole ce soir sur TF1. Il va dévoiler une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il y a un séminaire gouvernemental qui précède cette prise de parole où il sera notamment question de désmicardisation, l'un des mots de son discours de politique générale, et des nouvelles formes de travail. On pense à la semaine de 4 jours ou en 4 jours. Bruno Le Maire hier a déploré le triste anniversaire du 50e budget dans le rouge. Il aurait peut-être pu se poser la question dès le 43e, au moment de son arrivée à Bercy. Et puis on regardera cette étude de l'OPCO 2i, l'organisme paritaire qui est chargé d'accompagner la formation et le recrutement des entreprises industrielles, sur la part d'alternants que l'on trouve chez les apprentis. Eh bien, ils sont 5% des apprentis dans l'industrie seulement, et l'étude d'OPCO 2i confirme que ce sont surtout des hauts niveaux de formation qui bénéficient de l'apprentissage. Bonjour Guillaume Dard.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, Association française de la gestion financière. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Et bonjour Erwan Tison.
Bonjour Nicolas.
Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur d'Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Il y a deux écoles, Éric. Il y a l'école qui dit non, on avait promis une politique contracyclique, c'est pas au moment où les nuages sont là qu'il faut serrer la vis, donc non. Et puis il y a ceux qui vont vous dire, ah oui, mais même si le taux de chômage remonte, on a un marché du travail qui est encore en tension, on a des problèmes de recrutement qui sont toujours là, donc on a des éléments qui argumentent en faveur d'une réforme de l'assurance chômage.
Nicolas, pardon, je voulais...
Quoi, Guillaume, quoi ?
C'était dit que j'avais, avant qu'Éric ça magnifiquement...
Je ne savais pas que vous vouliez prendre la parole en premier, oui. Guillaume. Oui. Mais allez-y.
Je pense que avant qu'on traite exactement le sujet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle social français, il ne résiste pas aux guerres. Il ne résiste pas à la guerre contre le Covid. Il ne résiste pas à la guerre économique, hein, quand on se dit de la désindustrialisation depuis 15 ans. Et troisièmement, il ne résiste pas à une guerre, même à basse intensité. Hein, on le voit sur le sujet des obus. Donc tout ça... Tous ces sujets sont en train d'arriver les uns après les autres en rafale, et le chômage en est un. Et sur le chômage, je dirais juste un mot, c'est que, est-ce que l'assurance chômage, c'est une assurance individuelle? Maintenant, elle est payée théoriquement par l'employeur. Sauf que on sait bien que la cotisation employeur, c'est du salaire qu'on vous donne pas, hein. Donc c'est 4%. C'est 4% à peu près, plus un peu sur l'ASS. Alors, si c'est une cotisation
allocation
individuelle, ça veut
de
dire...
de solidarité qui doit disparaître.
Vous avez le droit, ça veut dire que si vous avez 4% et que vous travaillez 40 ans, ben vous avez le droit, entre guillemets, à un an et demi de chômage que vous avez payé. Ou alors c'est une mutuelle, c'est-à-dire que vous dites on cotise de façon transversale, et que ça veut dire qu'on peut payer 4% des salariés au chômage. Mais il n'est pas clair de savoir si c'est une assurance. Avant, on payait le salarié payait sa cotisation directement. Maintenant, il la paye, mais indirectement via la cotisation employeur. Donc, est-ce que c'est une assurance individuelle? Est-ce que c'est une mutuelle? Et qui décide de l'affectation de soit l'assurance individuelle, soit de la mutuelle.
Voilà. Pour l'instant, ça a toujours un statut assurantiel. Pour l'instant, c'est toujours dans les mains des...
Assurantiel, à ce moment-là, c'est à vous.
Ben oui, mais pour l'instant, c'est toujours dans les mains des partenaires sociaux. On posera la question tout à l'heure de la TVA sociale, justement. Donc je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'a dit Guillaume.
Oui, c'est vrai que Guillaume a élargi le sujet. D'abord, est-ce que le modèle social résiste aux guerres? J'inverserai. C'est grâce au modèle social qu'on résiste aux guerres. C'est-à-dire que globalement, l'activité ne chute pas trop aussi parce qu'il y a un modèle social qui permet de protéger. La question ensuite, mais ça, il suffit d'ouvrir un manuel de macroéconomie de première année, il y a toujours un chapitre « guerre ». Et déficit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une guerre, il y a forcément des déficits qui apparaissent parce que la guerre, ça coûte cher, et puis parce qu'on a moins d'activité. Qui doit payer, d'accord, les moments de guerre? Est-ce qu'on doit demander aux personnes qui subissent la guerre, qui vivent la guerre, en plus de payer le coût de la guerre au sens large, ou est-ce qu'on doit dire on le fait pour les générations futures et donc on les lègue sous forme de déficit et de dette. Donc, vous voyez, donc en gros, le modèle social n'y est pour rien.
Au contraire, le modèle 2.
Bah oui, mais donc le modèle social, c'est pas le modèle social qui, au contraire, le modèle social est là pour protéger, d'accord. Quand il y a des périodes, c'est des coussins contracycliques, hein, on appelle ça. Et donc ça a rien à voir. Au contraire, c'est après. Qui doit le payer ? Est-ce qu'on augmente les impôts ou est-ce qu'on les laisse un peu en déficit ou en dette ou on baisse la dépense publique ? D'accord. Ok, alors maintenant, sur l'assurance chômage.
L'opportunité d'agir.
L'opportunité. Non, mais ça, je pense que c'est clair que si c'est efficace, d'accord, de baisser la durée d'indemnisation pour envoyer un signal pour qu'il y ait un retour, il est certain que c'est beaucoup moins efficace quand on est en bas de cycle. Ça, je veux dire, bon, on peut tordre dans tous les sens. Alors, on sait que c'est moins efficace.
Je vous réponds d'après ce que j'ai en tête, sur les éléments empiriques d'observation, oui, réduire la durée d'indemnisation, c'est le paramètre le plus efficace pour inciter à.
D'accord,
semble-t-il.
Non, mais peut-être que c'est le plus efficace, mais en tout cas, il est moins efficace quand on est en bas de cycle que quand on est en haut de cycle. C'est-à-dire que quand, là, aujourd'hui, les entreprises disent je ne recrute plus, en net, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous voyez les perspectives d'emploi issues de l'INSEE, on est passé de 110 à 100, c'est-à-dire que les entreprises disent bon, ben, là, on est dans un ralentissement, et malheureusement, ça va durer. Si vous croyez les perspectives de la Banque de France ou ceux de l'OFCE, le chômage va augmenter, on va détruire des emplois en 2024. Vous voyez, c'est pas quand vous détruisez des emplois.
En 2024, vous êtes sur l'idée que c'est la destruction nette.
Ah oui, enfin nous en tout cas, on va ressortir.
On était encore en création nette depuis fin 2023, début 2024.
Oui, vous avez raison. Et là, on l'avait déjà sorti lors des dernières prévisions, qu'on allait détruire des emplois. Et là, on va le confirmer, on va vous donner le chiffre le 10 avril avec notre prévision. Mais vous voyez, globalement, on est dans un contexte où il y a un ralentissement économique et la Banque de France, comme nous, d'accord, on indique qu'il y aura des gains de productivité qui vont accélérer. D'accord. Donc, quand vous avez des gains de productivité qui accélèrent au moment d'un ralentissement, il y a des destructions. D'accord.
Les gains de productivité, c'est effectivement pas bon pour la création d'emplois.
Non, à court terme, c'est pas bon. C'est bon à long terme. Donc, on va être dans ce contexte-là. C'est sûr que c'est beaucoup moins efficace de réduire quand vous êtes dans un marché du travail. Ensuite, deuxième point. Est-ce que c'est complètement efficace de cette manière-là? D'accord. Alors, j'essaie de m'expliquer. L'idée derrière laquelle il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi, d'accord, on a essayé de le tester quelque part. Ce qui a été montré, c'est que c'est pas tous les chômeurs qui sont comme ça, ce sont plutôt des chômeurs qui font des allers-retours au chômage. D'accord, travail, chômage. Donc c'est plutôt des contrats courts. Et il y a la responsabilité et de l'employeur et du salarié. C'est-à-dire que l'employeur utilise aussi souvent ça. Et c'est pour ça que le gouvernement y a répondu déjà avec la réforme de 2019, avec le bonus-malus.
Qui a produit des résultats.
Mais le bonus-malus d'un côté et le recalcul du salaire journalier de référence, d'accord, pour désinciter le salarié chômeur à le faire et pour désinciter l'employeur de le faire. C'est ça la vraie réforme, pour lutter.
Celle-là, c'était la plus technique, mais
oui,
évidemment...
Oui, mais c'est celle-ci qui joue. Oui.
Mais en réalité, c'est un impôt.
Je finis. Juste, c'est pas celui qui est au chômage depuis 18 mois. Mais vous voyez, quelqu'un qui a 58 ans, qui est au chômage depuis 18 mois, vous pensez, très sincèrement, qu'en réduisant ses droits, il va retourner sur le marché du travail? Ça n'a aucun sens.
C'est votre position.
C'est juste un sens pour faire des économies. Mais ça, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'économistes pour défendre ce type de politique en disant si ça va faire retourner au marché du travail. Non, c'est le bonus-malus. Si ça ne suffit pas, et ça c'est ma dernière critique, d'accord, c'est-à-dire que globalement, ils ont fait en gros 5 grandes mesures sur l'assurance chômage. Il faudrait quand même avoir un bilan de ces 5 mesures avant d'en proposer une 6e mesure. Et là, moi je trouve que c'était intéressant d'aller vers le bonus-malus et le nouveau calcul du salaire journalier de référence. Essayons de voir, est-ce que ça a marché? Est-ce que du coup, il y a moins d'aller-retour sur le chômage?
Alors, bonus-malus, j'ai vu des résultats a priori positifs.
Ok, mais...
Je
pense que c'est pas très significatif, puisque c'est fait que sur certains secteurs, on devrait élargir à tous les secteurs, et donc continuons sur cette voie-là. Mais arrêtons de penser qu'en réduisant l'indemnisation des seniors, d'accord, en le réduisant, ça va faire retourner à l'emploi ces personnes-là.
On va voir ce qui nous sera annoncé aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que ça porte sur les durées indemnisation. Votre position par rapport à ça, Erwan Tison, et puis je ferai réagir Guillaume.
La DARES réalise régulièrement des études très sérieuses et très documentées sur le chômage volontaire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont au chômage parce qu'ils l'ont souhaité. On oscille, selon les années, entre 6 et 7,2%.
Donc, pour les chiffres que j'ai en tête.
Il y a 93% des demandeurs d'emploi qui le sont de manière involontaire. Pourquoi est-ce qu'ils le sont? Quand on regarde la structure du marché du chômage français, et d'ailleurs c'est peut-être un des marchés les plus hétérogènes qui puisse exister en Europe, on a une forte prédomination de personnes qui sont au chômage parce qu'ils sont pas ou peu qualifiés. Le taux de chômage des personnes qui ont un niveau de qualification infrabac est environ de 13 à 15% selon les dénominations qu'on prend. Pour les personnes qui sont diplômées de bac plus 5, on oscille entre 2,8 et 4,4% selon les années.
Oui, c'est du plein emploi.
Donc, le problème qu'on a, c'est un problème de qualification. Est-ce que le fait de diminuer de 1 mois, 2 mois, 10%, 15% l'allocation ou la durée pour ces personnes-là, non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui va marcher? C'est la formation. Ça peut paraître tarte à la crème, mais on n'a pas trouvé mieux depuis le Condorcet en 1792 pour former les actifs que de les mettre justement en formation continue. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait imaginer, nous c'est une proposition qu'on porte depuis plus de 6 ans, de se dire on fusionne assurance chômage et formation professionnelle. C'est-à-dire que on observe, et ça c'est les travaux de Stéphane Carcillo, une dégradation des compétences au bout du entre le 3e et le 6e mois d'inactivité. C'est à partir de là où se joue votre
l'employabilité au-delà de 6 mois, ça se complique.
Voilà, c'est à partir de là où se joue votre inemployabilité. Pendant les 3 premiers mois, en gros, vous perdez rien et à partir de ce sas-là où vous commencez du coup à devenir moins en moins employable. On pourrait imaginer que dans ce sas-là, donc les 3 premiers mois vous êtes indemnisé, peut-être même à hauteur de 80-90% de votre dernier salaire pour éviter la perte de déclassement, on va dire, au niveau de votre pouvoir d'achat. Et après, vous n'êtes plus pris en charge par Pôle emploi ou par France Travail, mais par du coup la formation professionnelle, où vous êtes impliqué, soit vous choisissez votre propre parcours de formation avec une orientation dans la carrière de votre choix, soit on vous incite fortement à suivre un parcours de formation en lien avec les besoins et l'adéquation nécessaire sur votre territoire. Et là, on pourrait avoir du coup non seulement une rémunération de la formation qui serait plus importante, mais aussi on réaliserait des économies d'échelle qui nous permettraient d'avoir des formations qui soient plus qualifiantes et de meilleure qualité. Ça permettrait quoi? Ça permettrait d'éviter, parce que aujourd'hui l'hypocrisie, c'est qu'on va vous laisser 14, 15, 16 mois chez vous au chômage. On sait très bien que de toute façon, vous n'êtes plus employable derrière. Et on se dit, on fait du traitement social du chômage, la personne ne va rien dire. Après, le problème, c'est que si vous basculez dans le RSA, je rappelle l'étude qui a été publiée encore une fois par la DARES, sur les 10 dernières années, il y a quand même 30% des allocataires du RSA qui le sont depuis plus de 10 ans. Donc, une fois que vous basculez dans cette inactivité globale, vous n'en ressortez plus. Et là, vous basculez dans la précarité la plus totale. Donc, fusionnons formation professionnelle et assurance chômage, faisons un traitement préventif du chômage via les compétences et via la formation. Et là, à mon avis, on pourrait avoir des meilleurs résultats en appariement sur tous les territoires. Et ça permettrait justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus intelligent qu'une simple réforme paramétrique.
Non, mais j'aime bien le fait d'apporter des solutions, vous savez, je suis assez sensible à ça. Ça signifie que les annonces de ce soir, elles sont exclusivement objectifs budgétaires. La DARES a dit, si on réduit de 20% la durée d'indemnisation, on a 3 milliards d'économies, c'est juste ça.
Individuellement,
alors Guillaume Dard,
individuellement, le chômage, c'est un drame. Collectivement, on voit qu'on tâtonne autour de solutions, j'en ai entendu très intelligentes là, mais sur le fond, est-ce que c'est une assurance? Est-ce que c'est une mutuelle? Est-ce que c'est impôt? Moi, ce que je comprends, parce qu'en fait, je vous redonne les chiffres, c'est 4%, ça veut dire que si c'est un droit individuel, on devrait vous le donner. Vous avez cotisé directement ou indirectement, maintenant c'est indirectement, tant depuis que vous commencez à travailler. Donc vous avez mis de côté, entre guillemets, une somme de temps. Et si vous êtes amené à percevoir des indemnités supérieures à ça, ça veut dire que vous avez coûté aux autres. Mais c'est le refus. Moi, je viens d'entendre des choses extrêmement intelligentes, mais assez qualitatives. Il y a eu des chiffres là, sur la DARES, mais et c'est faire injure aux Français de croire qu'ils ne pourraient pas comprendre. Est-ce que vous savez combien vous avez cotisé, Nicolas?
Absolument pas. Mais absolument pas.
Pourquoi je ne lis pas
tous les mois le montant de la cotisation chômage.
Si quelqu'un d'extrêmement intelligent et précis et technique ne le sait pas, c'est quand même qu'il y a
parce que j'ai pas fait l'effort de le savoir.
Mais parce qu'on vous le donne. donne pas non plus.
C'est un prélèvement obligatoire.
Mais par exemple, vous savez que quand vous avez votre feuille d'impôt, on vous dit que vous avez le droit à tant de cotisations pour votre retraite, pour les PER. Donc, on pourrait vous donner l'accumulation de ce que vous avez gagné. Donc, mais on vous fait croire que c'est un droit individuel, mais on ne vous le donne pas. En fait, c'est une mutualisation parce que les gens qui sont au chômage, comme ça vient d'être très bien dit, c'est des gens non qualifiés qui, eux, n'ont pas beaucoup cotisé. Donc, en réalité, c'est un choix collectif français. Donc, et l'illusion que ça soit un équilibre entre les partenaires sociaux, ça me semble une illusion. Parce qu'en fait, on fait un peu de traficage, on dit, ah ben, je mets à gauche, je mets à droite.
Moi, dans mon esprit, c'est une assurance, comme une assurance auto. Si vous n'avez pas d'accident, vous avez payé. Mais
c'est effectivement, j'arrive à la conclusion, et je rejoins celle que vous avez donnée, c'est au fond un impôt. Et que c'est l'État qui va décider comment est-ce qu'il accepte et s'il veut qu'il y ait un peu moins de dépenses, il va réduire les dépenses. Et je rentre pas dans ce qu'a très bien démontré Eric, de savoir si c'est bon ou pas bon. On a un problème. Combien il y a de versements sur le chômage? Qu'est-ce qu'on peut payer avec ça?
En tout cas, c'est un prélèvement obligatoire. C'est pas de problème.
Oui, mais ce n'est pas un impôt. D'accord. C'est pourquoi ce n'est pas un impôt, parce que vous voyez, un impôt, ça vous ouvre pas de droits. C'est pas parce que j'ai payé un impôt que j'ai des droits. Alors que une cotisation chômage, ça m'ouvre des droits. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais travaillé.
Je fais des impôts, j'ai quand même envie d'avoir un peu d'école, un peu de police, un peu de justice.
Oui, mais vous n'avez pas plus de droits que celui qui a pas payé d'impôts. D'accord. Celui qui a pas payé d'impôts, il a quand même la lumière va quand même s'allumer dans la rue pour lui.
C'est ce qui pose des problèmes en France.
Mais cotisations chômage,
c'est le ras-le-bol. Si les gens ont le sentiment qui payent beaucoup d'impôts, qu'ils n'ont rien en face.
C'est-à-dire que celui qui paye des cotisations chômage a le droit au chômage. Celui qui n'a jamais travaillé n'a pas le droit au chômage. Donc ça, c'est uniforme. Et donc, effectivement, c'est une assurance. Et normalement, cette assurance, elle doit. C'est pour ça que c'est proportionnel à votre salaire. Et que chez nous, ça peut monter très haut. C'est qu'on considère que le rôle de l'assurance chômage, c'est une fois que vous tombez au chômage, on te demande d'avoir qu'un seul objectif, c'est de retourner à l'emploi. Et de pas, vous voyez, si vous avez un droit au chômage qui est faible, vous allez dire, mince, j'ai perdu beaucoup, il faut que d'abord je pense à peut-être déménager parce que mon loyer est trop cher, à changer les enfants d'école parce que c'est trop cher le quartier, et donc, du coup, je réfléchis à autre chose que de retrouver à l'emploi. C'est pour ça qu'on dit, il faut que ça soit généreux, dans un premier temps, que ce soit proportionnel à ton revenu pendant un temps pour que tu te concentres, d'accord, sur ta reprise d'emploi. Et donc, c'est bien une cotisation. Alors après, c'est là où ça devient obligatoire. Et le fait que ce soit obligatoire, contrairement à une assurance voiture, c'est-à-dire qu'une assurance voiture, quand vous n'avez jamais d'accident, à un moment, on vous donne un petit bonus. Oui. On vous dit, tu payes moins. Alors que là, non. C'est-à-dire qu'un cadre qui ne tombe jamais au chômage, admettons, va tout de même le payer, et au même tarif que tout le monde, et même payer même un peu plus cher, parce que pour certaines raisons, mais qui sont un peu compliquées, en disant...
Certains revenus ont des cotisations déplafonnées. Ce qui, à mon avis, est un petit problème, quand même.
Et en plus, on lui met de la dégressivité.
De la dégressivité.
Mais en gros, globalement, c'est là où on te dit, allez, il y a un peu de solidarité quand même là-dedans. C'est-à-dire que, c'est un peu comme si l'assurance voiture, on disait, tu payes
patron,
pour les mauvais conducteurs.
Il ne payait pas de cotisation chômage quand c'était individuel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes patron, vous n'en payez pas. Parce que vous savez d'ailleurs que personne ne va vous indemniser et ça vous donne envie de bosser. Alors, tout le monde n'est pas patron, donc bien entendu que c'est possible. Mais moi, je vous dis, c'est de l'impôt et de la solidarité.
C'est la solidarité, mais ce n'est pas. Il y a la solidarité dedans, mais ce n'est pas l'impôt. Ensuite, vous voyez, il y a quand même eu des travaux académiques pour savoir quelle est la bonne durée d'indemnisation. Oui, ça, il y a même des prix Nobel là-dessus, Layard, Nickel, Jackman. D'accord? En gros, globalement, ce que nous disent ces prix Nobel, c'est que la durée, il n'y a pas une durée optimale.
Non, mais vous n'aurez jamais la bonne réponse.
Elle est quand même intéressante, leur réponse. C'est pour ça qu'on leur a donné le prix Nobel, d'ailleurs. C'est que ça dépend de qui vous avez en face de vous. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est très proche du marché du travail, très qualifié, il lui faut une durée assez faible, d'accord, pour lui dire, allez, il va falloir que tu retournes sur le marché du travail, tu as toutes les capacités pour le faire. En revanche, quand tu as quelqu'un qui arrive au chômage et qui est peu qualifié ou qui est dans des qualifications qui n'existeront plus demain, d'accord, et bien là, les prix Nobel nous disent, il faut rallonger la durée, d'accord, parce qu'il faut les retenir au chômage et les former. Là, je rejoins Erwan, c'est-à-dire que là, il faut aller vers les dépenses actives et pas que les dépenses passives. Il faut lui dire, tu as le temps, parce qu'on va te former, ça va être long à te reformer à un nouveau métier, etc. Et on va te donner, en plus, les moyens de vivre pendant ces durées-là. Et donc, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Moins tu es qualifié, plus la durée doit être longue, et vice-versa.
Eric, c'est admirable, mais dans le fond, je le redis, à titre individuel, le chômage, c'est un drame. à titre collectif, on perçoit bien que dans notre France depuis, disons, 40 ans, pour simplifier, le fait qu'on ait expliqué qu'il fallait réduire tout le temps le travail, eh bien, tout ça fait partie du même phénomène. C'est-à-dire qu'on ne sent pas l'absolue nécessité de travailler dans le pays. C'est pour ça que bon, maintenant, tout le monde répète ce que Nicolas, ce qui est dit sur ce plateau depuis longtemps. Il nous faut 10% d'emploi en plus.
10 points de taux d'emploi, oui.
10 points
de taux d'emploi.
10 points de taux d'emploi. Et alors, comme vous allez nous mettre le sujet de la semaine des 4 jours, si vous voulez, on croit marcher sur la tête. Alors, on va travailler moins, mais alors, il faudrait travailler plus, etc.
Il faut faire travailler plus de monde.
Je ne veux pas rentrer dans le débat parce que Eric et Erwan ont tellement bien précisé et puis connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. Mais moi, je redis, à titre collectif, à titre individuel, le chômage, c'est un drame. À titre collectif, il faut qu'on sente l'incitation de la nécessité de travailler. Et c'est pour ça que je disais, le modèle social, il est très bien, sauf que quand il y a des coups partout et des guerres qui se profilent malheureusement, eh ben il va souffrir horriblement parce qu'on ne pourra pas y faire face puisque ça ne nous a pas échappé qu'il y a un petit débat sur la dette française.
Justement, avant d'évoquer la semaine de 4 jours et peut-être le reste du séminaire gouvernemental, qu'est-ce que vous pensez de la TVA sociale, Eric? C'est Bruno Le Maire qui est devenu son... Alors, on est une 44, avant de marquer une pause, mais on continuera. C'est son antienne depuis la tabou au JDD et la sortie du bouquin La Voix Française. 5 points de cotisation sur la TVA, 60 milliards d'euros.
Non, mais c'est alors, en gros, globalement,
on passerait une politique sociale payée par l'impôt.
Alors, ok, il faut savoir pourquoi on le fait, d'accord. Oui, une TVA sociale, ça a un intérêt, pour moi, uniquement pour dévaluer, c'est une dévaluation
monétaire.
Donc, si vous considérez qu'aujourd'hui, on est en déficit, d'accord, parce qu'on a un euro qui est trop élevé par rapport à notre structure. Il est trop bas pour les Allemands, il est trop élevé pour nous, d'accord. Nous sommes déficitaires. Ok. Et donc, si vous dites, bah ouais, normalement, si j'avais gardé le franc, j'aurais dévalué le franc. Là, je peux plus faire parce que je suis en euros. La TVA sociale, d'accord, peut être un instrument pour dévaluer en monnaie unique et donc essayer de reprendre une partie de ce qu'on a perdu. Et donc, ça veut dire que, normalement, même les Allemands...
On peut le faire qu'une fois.
Alors, non, on peut le faire plusieurs fois, mais il faut le faire en coordination.
Bah, à 40% de TVA.
Non, mais d'accord. Ok, on va être à un moment... oui, ça dépend jusqu'où on va. Mais vous voyez, normalement, ça devrait être... et c'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec Bruno Le Maire, il faut le faire en coordination avec nos partenaires européens. C'est-à-dire qu'il faudrait dire, est-ce que c'est normal qu'il y ait 8 points d'excédent de la balance courante depuis à peu près 12 ans en Allemagne et des déficits en France? Non, c'est pas normal. On a la même monnaie, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a une monnaie sous-évaluée, l'autre qui a une monnaie surévaluée. Donc, normalement, nous, on devrait faire une TVA sociale et les Allemands, une TVA sociale inversée. D'accord, les Allemands devraient normalement baisser la TVA pour lancer la consommation et augmenter leurs cotisations. Et on pourrait trouver des TVA sociales pour réajuster tout cela. Mais les Allemands vont nous dire « nein » tout de suite. Donc c'est si certain. On fait une TVA sociale pour ça, les Allemands vont faire une TVA sociale de la même manière pour garder. Donc du coup, ça ne sert strictement.
Alors, c'est déjà la cigale et la fourmi, quand on la raconte en Allemagne, ils trouvent que c'est moral. Et quand on la raconte en France, ils disent qu'il y a un scandale et qu'il faut s'occuper des cigales.
On marque une pause. J'aimerais juste qu'on explique un petit peu de manière... assez presque scolaire, en quoi basculer des cotisations vers la TVA, effectivement, ça revient à une dévaluation monétaire. Sauf que Bruno Le Maire ne l'entend pas ainsi. Pour lui, c'est une arme pour augmenter le salaire net. On marque une pause et après, on s'intéressera à ce qui reste dans le séminaire. À tout de suite.
Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'AFG, Eric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Cet auditeur m'écrit dans mon village, il y a plein de jeunes qui toute la journée se prélassent à la terrasse du bar alors que les hôtels et restos manquent cruellement de personnes. Merci, les allocs en tout genre. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs les réformes d'assurance chômage, généralement, ça soulève pas le, ça soulève pas
juste
les foules.
Juste vous permettez une toute petite phrase.
Allez-y.
Parce que quand on regarde, moi, quand le prof, je suis tombé sur le 7%. 4% de chômage volontaire de la DARES. Je croyais qu'il y avait un biais statistique, mais cette phrase-là, c'est aussi l'importance de travail de réflexion des organismes de recherche et des émissions comme celle-ci. C'est de se dire, il y a ce qu'on voit et ce qui existe vraiment. Parce qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui profite du chômage et qui en est content, mais ça n'en fait pas une réalité statistique. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de macroéconomistes pour dire, c'est pas parce que vous avez un cas chez vous personnel que c'est une réalité générale. Et donc on a tous quelqu'un autour de nous, mais c'est pas pour autant que les chômeurs, les demandeurs d'emploi sont tous des fainéants qui profitent de leurs allocations.
C'est la grande difficulté. Enfin,
si le macroéconomiste dit qu'il fait 10 degrés et que individuellement les gens ressentent moins 5, vous avez un sujet.
Non, mais il y a un sujet là-dessus.
Les macroéconomistes n'évitent pas le ressenti et le ressenti,
sûr,
ce sont les urnes.
Ah, mais il ne faut jamais
insulter le ressenti.
Il ne faut jamais insulter le ressenti des gens.
Non, mais le ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais l'expert, normalement, doit essayer, d'accord, de s'extraire de ce ressenti et de regarder les chiffres. Après, c'est vrai qu'il faut convaincre, et si le ressenti n'a pas bougé, c'est qu'on n'a pas réussi à convaincre.
Monsieur Batrémienne, ce que m'avait raconté à l'époque Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, c'était un peu une autre époque. Hein. Le TGV était quand même beaucoup moins cher, avec un yield management beaucoup moins agressif qu'aujourd'hui. Il disait, objectivement, quand tu regardes mes prix de TGV, c'est pas du tout un coup de bambou par rapport aux autres pays à l'époque, mais tout le monde pense le contraire. Je dois tenir compte du fait que tout le monde pense le contraire.
Donc il a monté les prix.
Aujourd'hui, c'est un peu différent. La manière de fixer les algorithmes sont devenus assez agressifs. Mais c'est un des problèmes que je rencontre en traitant l'actualité économique, notamment dans des chroniques de BFM TV sur un espace de 2 minutes 20 à 2 minutes 30. On peut pas tout dire, on peut pas expertiser les chiffres dans toute leur complexité. J'ai toujours des tombeaux de réaction en disant ce que vous dites n'importe quoi, car moi, voilà ce qui m'arrive.
Nicolas, c'est pour ça qu'on a dit le 4%. Bon, c'est important, les gens l'ont pas en tête.
Le 4% de
la cotisation.
Oui. Ah non, mais on peut très bien regarder.
Parlons, c'est pas compliqué. 4% du salaire des gens, super brut,
est
utilisé à payer une cotisation.
Oui, revenir un instant sur cette histoire
des retraites qu'on n'aura jamais, mais ça c'est autre chose. On va ouvrir le sujet.
Ah, mais ça c'est le dada des Rouen Tison. Revenons un instant, Eric, sur cette histoire de TVA sociale égale une dévaluation. Si je fais la TVA sociale, ça veut dire que je vais prendre
la retraite, c'est 20,
oui. 28.
28 sur 100 euros, c'est 28 euros, c'est ça.
Mais là aussi, on l'a pas beaucoup dit.
C'est 28 sur 100 euros de super brut, c'est 28.
Oui, c'est ça.
28.
Oui, non,
mais avec un taux de récupération pour ma génération qui est de 95%. Alors qu'il était de entre 300 et 400% pour génération des années 20 et
95, 200%. Vous êtes optimiste.
C'est la vie, c'est la vie, cher jeune homme. Voilà, c'est comme ça.
Vous aurez 50%.
Oui, mais encore.
Oui, donc si je décide de prendre un gros bloc de cotisation et que je les mets sur la TVA, donc je bascule vers l'impôt, Eric, on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise en France qui produit et qui va exporter moins cher.
Exactement.
Et que l'entreprise qui importe en France va importer plus cher.
Bah, c'est-à-dire que
c'est exactement ça.
C'est pour ça que ça fait des gains de compétitivité normalement, puisque l'entreprise nationale bénéficie des baisses de cotisation, pas l'entreprise étrangère, alors que les prix ont augmenté. Donc du coup, ça fait une compensation pour l'entreprise nationale, pas pour l'autre. Et donc quelque part aussi, ça veut dire qu'on fait payer une partie de notre modèle social par les étrangers, par les touristes, etc. Ce qui, à mon sens, n'a aucun sens. D'accord. On devrait se dire, on a un modèle social. Est-ce qu'on en est fier? Oui ou non? Si on en est fier, on le finance nous. On n'a pas à le faire financer par les étrangers. Vous voyez, on va être généreux chez nous, on va dire, ah, c'est pas grave, ce sont les touristes qui vont payer. Ça n'a aucun sens. D'accord?
C'est pourtant très séduisant de se dire
mais
que.
Oui, d'accord, mais moi je pense que ça, pour moi, enfin, ça n'a pas de sens. Soit on dit c'est trop généreux, donc il faut le réduire, et on réduit les prestations, mais c'est pas aux Italiens, aux Espagnols ou aux pays émergents à financer.
Bah, c'est la CSG la solution?
Alors oui, c'est la CSG la solution. Bon. Parce que, vous voyez, la CSG, là, l'avantage, c'est que on dit c'est tous les revenus, quel que soit le type de revenu, que ça soit un revenu du capital, un revenu du travail
ou une pension de retraite.
Et vous voyez, quand vous regardez en comparaison internationale, quand on dit qu'on a les prélèvements obligatoires les plus élevés, c'est vrai, et que c'est dans tous les impôts, c'est vrai. Non, pas sur l'impôt sur le revenu. On paye moins d'impôts sur le revenu globalement, d'un point de vue individuel.
Mais l'impôt sur le revenu, c'est la même chose.
Eh ben oui, mais c'est pour revenir au niveau de tout le monde. On a un impôt de revenu, y compris CSG, plus bas que tout le monde en point de PIB. D'accord ? Donc du coup,
La CSG, c'est monter l'impôt sur le revenu, oui.
Exactement. Ah, oui. Exactement. Et c'est de dire tout le monde va devoir y contribuer. C'est-à-dire pas, il y aura pas, c'est pas des exemptions. Il y a très peu d'exemptions de CSG, à part si c'est le RSA. Mais globalement, tous les types.
À l'inverse de l'IR, qui lui n'est payé que par une partie de la population qui est minoritaire.
Nicolas,
mais vous voyez, c'est vrai que l'IR rapporte quoi ? 3,3 du PIB. Alors dans un pays normal, c'est dans les 9 points.
Ben oui.
Sauf que les gens qui le payent le vivent très mal, parce que eux, ils en payent beaucoup.
Parce que l'assiette est trop petite.
Parce que l'assiette est trop petite.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer ça ?
Mais regarde, Nicolas.
Ben la CSG, c'est une façon.
Non, mais Nicolas. Bon.
Allons-y.
C'est du bonto. C'est du bonto.
Ah, il y a un peu.
C'est du bonto. C'est du bonto.
Et alors, mais il peut avoir un bon bonto, là. Parce que bonto, c'est un terme péjoratif. Bonto, c'est un peu, je te fais un tour de passe-passe. C'est pas du tout un tour de passe-passe.
Oui.
Mais il y a un côté bonto, c'est vrai. Parce que. On a ce débat un peu byzantin avec Eric sur savoir si c'est un impôt ou pas, la cotisation chômage. Moi, est-ce qu'on sent bien? Regardez la feuille de paye. Maintenant, on voit bien le sujet là, puisque la feuille de paye, vous avez le super brut, personne regarde. Vous avez l'ensemble des charges sociales et maintenant vous avez le prélèvement à la source. Il y a eu un débat, là, on attaquait M. Le Maire en disant qu'il a dit qu'il y avait 40% de différence, qu'il n'avait pas fait attention. Mais il parlait du super brut, donc il a raison. Et c'est un sujet, Nicolas, dont on parle depuis 15 ans sur ce plateau. C'est que le net à payer pour les Français est incroyablement inférieur au prix auquel il vend son travail.
Oui, juste, on est d'accord.
Et maintenant qu'il y a le prélèvement à la source, en plus, il voit l'ensemble de la chose. Donc, on est à des niveaux d'impôts et cotisations, mettons-les ensemble, qui sont insupportables. Donc si on monte la CSG, si vous la montez en net, si vous rajoutez, ça fera plus et donc il y aura encore moins.
Donc
c'est pas un bulletin de salaire pour le retraité, mais il veut baisser le niveau de vie des retraités, j'entends.
Donc, mais Eric, c'est Erwan.
Non, mais non, oui,
c'est Eric.
Bien sûr.
Ok. Mais enfin bon, tout ça fait donc
l'impôt sur le revenu.
Plus d'impôts. Hein. Or,
non.
C'est pas.
Mais non.
Deuxième sujet sur la TVA sociale. Je réponds. Si vous montez la TVA à 25%, vous allez avoir, et ça se passe déjà dans certaines parties de la France, le retour de l'économie parallèle. Ça se passe pas ici, à Paris,
possible,
entre nous.
Dans certains secteurs,
mais
c'est possible.
Si vous mettez à 25%, c'est pour ça qu'il y a eu des baisses de TVA dans un certain nombre de secteurs. C'était qu'au fond, ça faisait que les gens la payaient au-delà d'un certain niveau. Les gens
craignaient que le consentement à l'impôt soit abîmé.
À 25%, ça change le prix. Les gens qui vont acheter, je sais pas, une paire de pneus, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels je peux vous dire que ça passera pas la TVA. C'est pas mauvais comme système en théorie. Enfin, vous connaissez la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, la théorie et la pratique, c'est la même chose, mais en pratique, pas tout à fait.
Juste un point, ce basculement, on l'a testé en 2010.
Le basculement de quoi, pardon?
Le basculement du baisse des cotisations vers la CSG. La dernière fois qu'on l'a testé, c'était en 2017, et ça a été la plus forte hausse du salaire net de ces 20 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Parce qu'il y a les gilets jaunes et parce que il y a eu un fort lobby d'une partie de la population qui a pas voulu augmenter son taux de CSG. Toute partie de la population qui est d'ailleurs un taux de CSG 1,2 points inférieur à celui des actifs au titre de non recouvrement des frais professionnels. Je parle bien sûr des retraités. Donc là, ça coûte 3 milliards par an, il faudra aussi nous expliquer pourquoi.
Ça coûte pas.
Bah si, ça coûte.
Arrêtez avec les dépenses fiscales.
Si on avait un taux de...
Je reformule.
On perd chaque année 3 milliards d'euros parce que justement, il y a un taux différencié entre les retraités et les actifs.
On gagne moins, c'est pas on perd.
On gagne moins. Mais donc du coup, si on fait cette bascule-là, le Danemark, par exemple, a une différence entre le salaire net et le salaire brut qui est un des plus faibles. Justement, pourquoi? Parce que tout est mis sur l'impôt sur le revenu. On pourrait avoir, à condition effectivement d'élargir.
Le modèle est payé par l'impôt.
C'est un modèle
beveridgien pur.
Tout à fait, à condition d'élargir au maximum l'assiette. Et l'assiette, on peut l'élargir très fortement. Le coût de recouvrement annuel pour un contribuable, c'est 76 ou 77 euros. C'est-à-dire qu'en dessous, ça ne vaut pas le coup de prendre des impôts. Au-dessus, ça vaut le coup.
Nous, c'est 61, je crois.
61. Bah, ouais, on pourrait du coup se dire, 5 euros par mois, pourrait du coup se dire, bah, ceux qui payent moins, effectivement, on va pas chercher. Ou alors, on crée une sorte d'impôt négatif, on peut réfléchir là-dessus. Et au-dessus, on va récupérer. Et là-dessus, on pourra déjà avoir, là, pour le coup, on jouera sur le ressenti, parce que si jamais vous augmentez votre salaire net de 5, 6, 7, 8% de manière instantanée, là, vous allez avoir de la consommation qui va être beaucoup plus importante. Et donc, du coup, de la croissance. Et donc,
c'est
du
bon
coup,
ça revient sur.
Et c'est bon pour le moral. Et contrairement à la TVA, c'est quand même un impôt qui dispose d'une élasticité la plus négative par rapport aux autres, et qui fait que mécaniquement,
l'assiette est beaucoup moins large.
Mécaniquement, tout ce que vous allez mettre dans la hausse de TVA, vous n'êtes pas sûr de le récupérer derrière en consommation. Donc, vous pouvez aussi gripper le principal moteur de notre croissance.
Ah oui, ça joue sur l'histoire de la répercussion sur la consommation, oui, et des pertes en ligne, c'est possible. Oui. Mais est-ce que c'est pas l'histoire de la fusion IRCSG, notre discussion?
Non, mais bien sûr, non, si. Mais ça peut être une solution. Non, mais ok. Mais alors, le dernier point, alors, quand même, allons-y. Pour la CSG, le dernier point, c'est comment on finance nos dépenses aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des dépenses familles qui sont universelles. Tout le monde y a droit. Pas que les salariés. Tout le monde y a droit. Pourquoi? C'est les cotisations qui financent. Ça, il n'y a pas de sens.
Il y a eu un coup de canif, quand même.
D'accord. Il y a des dépenses maladie. D'accord. Les cotisations financent les dépenses. Mais pourquoi? Tout le monde y a droit à ces dépenses-là. Donc là, on pourrait dire certaines cotisations. Et là, je ne serais pas d'accord avec Guillaume. Les cotisations chômage, c'est plutôt pour ceux qui travaillent. Donc c'est normal que ça soit des cotisations. Les retraites, c'est on ouvre des droits, donc que ça soit des cotisations. Moi, j'ai aucun problème. En revanche, tout ce qui est famille, tout ce qui est maladie, on devrait le transférer vers un impôt. Et donc, je n'appauvris pas les retraités, je les fais participer comme tout le monde à des dépenses. Pourquoi les retraités ne participent pas à ces dépenses-là qui sont universelles? On devrait le faire, c'est pour ça qu'il faut le faire passer.
Ça fait 35 minutes qu'on parle que d'avoir rajouté des impôts.
Non, 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 transfert. Mais non, parce
qu'on fait 35 minutes qu'on n'attaque pas le sujet des dépenses.
On baisse des cotisations.
35 minutes,
on va parler des dépenses.
On peut pas dire d'un côté les cotisations, c'est des impôts, et quand on les baisse, on dit tu ne baisses pas les impôts. Non, on baisse bien les cotisations.
35 minutes qu'on parle.
C'est un sujet hyper technique. On est rentré dans la complexité du sujet entre TVA et CSG.
Nicolas,
je trouve ça intéressant.
On a combien de dépenses publiques?
On est à 58 selon l'OCDE, 56 sinon.
58. Bon, oui. Et les recettes de l'État, c'est combien au sens global?
Les recettes de l'État.
53. C'est 53.
Les recettes de l'État.
53. On est dans un budget socialisé et on sent bien qu'on est à la limite de ce modèle.
Allons-y.
Fait un système de redistribution qui est tellement important que le sentiment du salarié sur sa feuille de paye est extrêmement négatif. D'où les envies, d'où la baisse de la productivité. Moi, je vais pas vous la... On a l'air de chercher la baisse de la productivité. Les gens ont des salaires nets, ils considèrent qu'ils sont plus... Il y a des entreprises où ils peuvent être bien payés, des entreprises où ils sont assez mal payés. Les gens ont quand même ont un sentiment de salaire net très faible.
Et voilà, justement, c'était l'objet de la CSG sociale, le fait augmenter.
Mais au global, ne faites pas croire qu'en bougeant un impôt d'un côté à l'autre, il y aura les gens en plus d'argent net.
Comment est-ce que vous avez... Parlons justement des dépenses.
Les
dépenses...
Parce qu'on passe...
On passe
d'une base de 22-23 millions de personnes, et la même somme, on va la répartir sur 40-45, plus effectivement d'autres actifs, notamment financiers, capital, etc. Donc, mécaniquement, en augmentant la base.
Sur l'épargne, on est déjà à 30, plus le prélèvement exceptionnel, 33-34.
Bien sûr, mais le
taux de fiscalité sur l'épargne dans les trois pays voisins qui ont des modèles sociaux
comparables? Bien sûr, mais l'idée, c'est pas de
Allemagne,
monter.
Italie, Espagne, on est entre 22 et 26. Donc, même le prélèvement forfaitaire unique n'a fait que de nous rapprocher du niveau des autres, mais au-dessus.
On reste au-dessus, on est d'accord.
8 à 10 points
la au-dessus. La fiscalité sur le capital est encore supérieure à la moyenne. Elle a été un peu normalisée.
Mais arrêtez de parler de capital. Il y a sûrement des capitalistes, mais pour la plupart des gens, c'est de l'épargne. Le capital, c'est un moyen pour on dit à capital, il faut faire payer cher.
Non, je ne suis pas du tout un ennemi du capital, vous le savez bien, Guillaume.
Parler d'épargne, c'est le prélèvement forfaitaire sur l'épargne.
Sur l'épargne.
Donc, on y est, puisque il y a une exceptionnelle à 3 et 4%, donc on est à 33-34. Parce qu'on la voit, la petite musique qui revient, on dit ah ben le capital.
Je sais qu'elle revient, cette
elle
musique.
Revient
et ce serait la pire des musiques qu'on
dit. Ce serait la pire des musiques. Et je ne vais pas appeler Jean-Marc, mais enfin, on sait très bien qu'il y a globalement l'épargne. On dit il y a beaucoup d'épargne, il y a 15% et plus avec le Covid.
Et ça, c'est l'épargne populaire, c'est les bas de laine des gens.
Mais sur ces 15, il y en a 10 qui vont au remboursement de crédit. Donc, il n'y a que 5% d'épargne financière pour financer individuellement la retraite. Erwan qui n'aura pas de retraite, il a intérêt à mettre de côté. La dépendance, ça, c'est plus pour moi que pour Erwan. Et collectivement, l'investissement productif, la transition climatique et... pas rembourser la dette, parce que ce serait prétentieux, mais enfin donner l'impression qu'il y a un peu de solvabilité. Donc on n'a pas assez d'épargne. Donc arrêtons de vouloir trouver des solutions magiques, baissons les dépenses.
Alors les dépenses, est-ce que vous avez, messieurs, hier passé une mauvaise journée en tant que macro-éco à l'annonce de ce déficit 0,6 points au-dessus de la prévision? C'est assez rare que la tonalité générale du traitement de l'actualité sur ce sujet purement économique, budgétaire, qui généralement passionne pas les foules, il y avait un peu de fébrilité hier. On sentait que, tiens, est-ce que c'est l'heure de vérité? Est-ce que c'est plus grave que d'habitude? Est-ce que là où c'est toujours passé, ça va peut-être arrêter de passer? Est-ce qu'on est à l'aube d'un moment où est-ce qu'il est minuit moins 5? Enfin, vous voyez, voilà. Est-ce que c'est l'ambiance que vous avez ressentie dans la journée d'hier,
Guillaume? Mais oui, Guillaume. Les gens ont fini par comprendre. D'ailleurs, c'est intéressant, on avait l'impression que...
C'est pas une journée déficit comme les
autres. Il y avait BFM Business sur toutes les chaînes, cette fois-ci. C'est-à-dire que vous faisiez toutes les télévisions en continu.
Tout le monde a
parlé
du
déficit. Pour la première fois. Enfin... on demande d'ailleurs, c'est pour ça que la France est un pays romantique, c'est-à-dire qu'elle peut jamais regarder ses chiffres et on s'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur. Le Portugal
en excédent plus
que le plus. Portugal avec un gouvernement socialiste a réussi à régler le sujet. Sur la dette, les Allemands, bon, c'est toujours la référence, c'est en 60, mais si vous prenez la Suède, qui est aussi un bon modèle social, la dette suédoise sur le PIB, elle est à combien, Eric?
Je l'ai pas en tête.
Elle est faible, non, oui.
Ouais, 25, 30.
Oui.
Ouais. On a dépensé, et on ne va pas jeter la pierre ni au président, ni à M. le maire, parce qu'en fait, ils répondent à la demande des Français qui disent « c'est tout de mama ».
Tout le monde est malheureux du
maman,
déficit.
Maman, j'en veux. Donc, ils ont...
Il faut penser un peu
soi-même aussi. Et ça ne suffit pas, puisque personne n'est content. Donc, ce n'est pas
personne
eux, hein, c'est la collectivité. Donc, ce que vous venez d'annoncer, c'est une excellente nouvelle, s'il y a une compréhension que ce modèle social, qui a beaucoup d'atouts à certains égards, est devenu hors de prix et qu'il maintenant se traduit par une dette qui est très difficile. Et en plus, cette dette, vous avez vu le nouveau chiffre, elle est détenue par l'étranger. Parce que,
oui, mais c'est parce pas que... très nouveau, ça a pas beaucoup évolué.
Vous n'avez pas vu le
chiffre? Alors, moi, j'ai quoi? J'ai 42% de la dette française.
Non, c'est passé à 53, là.
À 53.
Parce que comme la Banque de France arrête d'acheter en net,
oui,
parce qu'en fait, c'était les investisseurs français et la Banque de France. Donc, on est passé de l'autre côté.
Non, mais il y a un vrai sujet. Il est évident que cette dépense qui est toujours incontrôlée, j'ai repris des chiffres, là, en 2000, on était, mince, je les ai plus sous les yeux. Est-ce que vous avez passé une mauvaise journée hier?
On était à 20%.
Est-ce que vous vous êtes dit, Eric, ça commence à devenir un peu chaud notre histoire? On est quand même en décalage de plus en plus flagrant avec les autres économies européennes et ça commence à vraiment se voir. C'est pas l'histoire de Moody's, ce sera pas agréable, un peu humiliant d'être dégradé, mais je sais que le lendemain, l'agence France Trésor placera les titres de la France sans problème. Mais là, c'est... Il y a un malaise.
Non, ok. Non, mais qu'il y a un malaise, que ça soit inquiétant, tout ça, il faut bien entendu le mettre sur la table. Est-ce que maintenant il faut dire, comme on l'entend, comme on l'a entendu hier, c'est la faillite?
Mais attendez,
sur ce plateau, j'entends, c'est la Grèce.
Je
ne dirai pas, le nom a été prononcé par Guillaume Dard. Dire que c'est l'Italie ou dire que c'est la Grèce, c'est faux.
Mais quoi, l'Italie, ça mal l'Italie? Vous n'aimez pas l'Italie?
Mais parce que c'est pas vrai. Mais parce que Guillaume, on ne peut pas dire que c'est l'Italie.
Non, mais on va pas dire la Grèce. J'ai démenti hier que c'est Saint-Étienne qui a dit que c'était la Grèce.
Oui,
il l'a dit un peu.
Même Jean-Marc Daniel dit que c'est la Grèce. Il faut quand même être un peu raisonnable. Et c'est même pas l'Italie. Vous voyez, il y a que ici pour penser.
Nous, c'est quoi le problème?
Alors, je vais vous expliquer.
L'Italie
d'abord, les agences de notation.
PIB, mais l'Italie est en excédent primaire.
Non, mais tenez, c'est même pas nous. Les agences de notation, elles notent la France combien? 18 sur 20. Elles notent la Grèce combien? 9 sur 20. Elles notent l'Italie combien? 11 sur 20. Alors, si 18, c'est égal à 9... Ok, alors je suis d'accord, mais 18 n'est pas égal à 9.
Non, mais
18
d'accord.
N'est pas égal à 11. Quels sont les spreads d'intérêt, de taux d'intérêt entre l'Italie et la Grèce? Est-ce qu'il y a eu, des tensions, d'accord, sur les taux d'intérêt français?
Non.
Est-ce qu'il y en a eu sur l'Italie? Oui. Est-ce qu'il y en a eu sur la Grèce? Oui. Donc moi, je veux bien qu'on annonce tout ça. Je veux bien annoncer que, allez, on est la Grèce. Moi, je pense que ça, c'est déraisonnable. Guillaume, on vous a laissé parler, Guillaume. Non, mais Guillaume, il faut arrêter de couper la parole. Moi, quand on dit tout à l'heure, il y a du ressenti et c'est ingrat. Je pense que quand les experts disent la France, c'est la Grèce et l'Italie, ça nourrit un ressenti qui est faux.
J'ai démenti ça.
Oui, d'accord, mais il faut quand même commencer à arrêter cela. Donc dire c'est inquiétant, d'accord, c'est l'Italie et la Grèce, il faut maintenant interdire ce genre de propos, c'est faux.
Je l'ai hier sur BFM TV, j'ai dit c'est faux, non, c'est pas la Grèce. Alors, mais maintenant, il n'y a pas un problème français.
On est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne. Bon. Voilà. Ça, c'est pas faux.
Non, mais oui,
on est plus proche de l'Italie que de l'Allemagne.
Mais d'accord, mais c'est pas ça qu'on dit. C'est qu'on dit qu'on est au bord de la faillite. Enfin, on entend des hommes politiques le dire.
J'ai pas dit ça, je dis.
Oui, d'accord. Mais oui, en plus, on dit qu'on est à la Grèce et l'Italie, c'est qu'on est au bord.
Ça fait pas faillite, ça fait banqueroute.
Donc, du coup, il faut dire pourquoi.
Défaut, banqueroute.
Voilà. Pourquoi, alors que les déficits baissaient partout et qui baissaient aussi en France, pourquoi ils réaugmentent en 2023? Entre nous, jusque-là, il n'y avait pas grand-chose à dire. On a commencé 2019, le déficit était à 2,4.
Oui, absolument.
L'Allemagne était à plus 1,5. Donc l'écart, il était de 4 points entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, même avec notre 5,6, puisqu'ils sont à 2,4, on a à peu près le même écart, même un peu moins, d'accord ? Donc, en gros, globalement, la question, c'est eux, ils sont dans une dynamique où ça baisse. Nous, on était dans une dynamique où ça baissait et ça réaugmente. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qu'il va falloir corriger. Et la question, c'est savoir, est-ce qu'on panique, comme on l'a dit ? Et donc, il faut aller très vite faire n'importe quoi et retourner à 2011. Et là, on va casser la croissance. Ou est-ce qu'on dit, allez, maintenant, il va falloir tenir nos engagements, essayer de faire des économies, quel type d'économies, essayons de réfléchir, mais ne paniquons pas. C'est la dernière chose à faire. Les marchés financiers nous disent on vous fait crédit aujourd'hui, utilisez ce temps de crédit pour prendre les bonnes décisions et pas dire allez, on y va, on tape à la hache. Non, c'est la dernière chose à faire.
Il y a eu hier au gouvernement. Le gouvernement, il a fait ce qu'il peut. Je disais simplement que la demande française,
la demande française de
subvention est tellement forte,
très forte
que c'est au niveau du psychisme global qu'il faut agir.
Mais juste, Eric, mais vraiment très vite, parce que je veux qu'il y aura du temps. On a 4 minutes 40. Vous dites taille à l'âge, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Et effectivement, le décret à 10 milliards, franchement, c'est fait à la va-vite. Par exemple, l'annonce de ce soir, c'est un coup de hache qu'il faudrait.
Non, je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous disent voilà, on a des engagements européen qui est de faire un demi-point de PIB d'économie chaque année. Un demi-point de PIB, c'est aux alentours de 12-14 milliards. Et ben voilà, c'est ça, il faut tenir cet engagement. Et on tient cet engagement, on fait 12-14 milliards d'économies, et il faut qu'ils nous disisent quel type d'économie on va faire, sur qui on va taper.
Il va falloir s'y mettre, hein. Parce que là,
ok, mais c'est ça qu'il faut faire. Et en disant, il n'y a pas de panique, on va les faire. Réfléchissons à les économies. Il faut sanctuariser les dépenses d'avenir et il faut sanctuariser les dépenses qui ont une incidence sur le court terme.
Et Rouen, par rapport à cette journée, que j'ai trouvé pas comme les autres, franchement, dans le traitement du budget. Généralement, je vais vous dire franchement, le budget, quand j'en parle à mes camarades des antennes d'information générale, c'est un peu compliqué, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Eh ben hier, ça les a passionnés.
Ouais, mais hier aux questions au gouvernement, il y a eu près de la moitié des questions au gouvernement qui étaient consacrées à déficit et à la dette. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir la compréhension parfois limitée qu'ont certains partis justement sur les différents mécanismes budgétaires. Il y a moi ce qui pour prendre un petit peu de hauteur, ce chiffre-là très bien acté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les prévisions jusqu'à 2027 qui ont fuité de la part du document qui a été perquisitionné entre guillemets à Bercy. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt en fait d'inverser la tendance. Bruno Le Maire nous annonce 3% en 2027. Quand on regarde la plupart des tendances, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Effectivement, se dire dans un vent de panique, il faut l'échéance, c'est le 26 avril et la note qu'on va attribuer à la dette française. Je pense qu'effectivement, on fait une grosse erreur parce qu'on va taper dans des choses qui sont sans forcément mesurer l'évaluation et mesurer notamment l'impact que ça pourra avoir. Moi, j'ai une petite proposition à faire ce matin. On sait que le gros problème, c'est l'efficacité de la dépense publique. Je pense que les Français, le consentement à l'impôt serait beaucoup plus élevé si on était premier à PISA, si on avait un taux de chômage de 3% et si on avait des logements verts absolument partout. Le problème, c'est que c'est pas le cas. On a la chance en France d'avoir des laboratoires de recherche en économie qui sont parmi les meilleurs au monde. On a des think tanks qui sont exceptionnels. On a des chercheurs en économie qui sont très très bons.
Ils ont leurs travaux.
Mais dans ces cas-là, on pourrait dire on peut rassembler tout ce beau monde. On peut mettre, je sais pas, je dis 15, 20, 30 millions d'euros sur la table. Tout de suite, on dit, vous, dans 6 mois, vous devez nous rendre un rapport, on fait bosser
un
tout.
Nouveau rapport Armand Relef, Attali, un nouveau rapport Pébro.
Non, justement, je suis contre la réunionnite et contre la rapporite. Ce que je dis, c'est qu'on réunit tout ce beau monde-là, on les finance, on fait un travail de recherche, on leur demande de mettre en suspens la plupart de leurs autres travaux, et on demande d'évaluer avec authenticité et avec technicité combien rapporte chaque euro de dépenses publiques dans le budget. Vous faites ça pendant 6 mois. Dans 6 mois, ça nous amène au débat budgétaire du PLF. Et dans le PLF, on coupe. Avec un engagement de dire tout ce qui a tant et tant de degrés d'efficacité en moins, on coupe. Et on se pose la question après de l'externalisation vers le public. Est-ce que la régie autonome des transports parisiens, c'est très bien que ce soit uniquement géré par le public?
On a le droit de poser la question.
Est-ce que la SNCF, c'est très bien quand c'est géré exclusivement par le public? Je ne pense pas. Mais c'est de l'anticipation. Posons la question. On a des excellents macroéconomistes et microéconomistes dans ce pays. On les fait tous bosser. Par contre, on les rémunère. Ça peut être une dépense très utile. Et on se dit, on va chercher à la fois les rentes et à la fois l'efficacité.
Bon, Guillaume, il va falloir trouver le chemin d'accès.
La dernière fois qu'on a été dans une situation très difficile, c'est 58. Où là, le FMI était en France. En 58, enfin je parle pas de 83, mais parce que ça a été assez court, mais en 58, vraiment l'État français était quasiment en faillite. On dévaluait toutes les 5 minutes. Et qu'est-ce qu'a fait, relisez les mémoires d'espoir, et le général de Gaulle le raconte extrêmement précisément, il a dit, je n'ai pas fait ça avec le ministère des Finances, ni avec les partis, j'ai vérifié qu'il n'y ait aucune fuite dans la presse, on a mis en place, c'est le plan Rueff, même, il n'en a même pas parlé à Pinet. Et ils ont mis en place, et ça a été redressé de façon assez rapide, mais dure. Ça a été très dur. Ça a été un plan très dur. Et je crains que, on sait comme est la France, c'est que, on va dire, c'est pas grave. Eric a dit qu'on avait 18, donc si on a encore 18 sur 20, c'est mieux qu'au PISA. Moi, je pense qu'on n'a pas 18 sur 20 dans le sentiment. On a juste la chance que les investisseurs institutionnels sont obligés d'investir en obligations et qu'ils ne peuvent pas tout mettre en Allemagne et en Hollande, et donc ils répartissent leurs actifs, et c'est plus un concours de laideur qu'une recherche de beauté. C'est-à-dire qu'on n'est pas les plus laids, Eric a raison, il y a pire que nous, mais même les pires que nous sont en train de redresser. Regardez la façon dont l'Irlande a réussi à redresser ses comptes, c'est absolument incroyable. Non mais je sais que rien n'est jamais comparable. Fiscal.
Non mais ok, si on est... Oui, l'Irlande fait 25% de croissance.
On va ouvrir un débat sur l'Irlande.
Oui, mais bon. Alors le Portugal, je ne sais pas ce qu'ils ont fait.
Le Portugal, donc, ils ont 1,2 d'excédent.
Mais on sait comment il faut faire. Non, mais on sait comment il faut faire quand on dévalue. Non, quand on fait l'austérité. Hein. Comment a fait la Suède, comment a fait le Canada. Ils ont dévalué leur monnaie, d'accord. Et c'est la seule condition pour le faire. Il faut le faire seul et dévaluer. Le Portugal a fait...
sortir de l'euro, Eric.
Mais ça veut dire que dans ces cas-là, il faut arrêter de parler de l'Irlande, de la Suède, parce qu'on peut pas dévaluer nous, donc on peut pas faire.
Je parle de l'Italie qui essaie de.
On va se
dévaluer
l'Italie. On sort pas de l'euro, mais du studio. Allez, soyons dans l'Italien. De manière assez subtile.
150 points de.
Bon, moi je vous ai fait la potion réforme grecque juste sous l'euro.
Combien de déficit italien, puisque c'est super, comme le dit Guillaume Dard. 7,2, Guillaume.
7,2.
Combien d'excédents primaires? Il faut aller vers l'Italie. 7,2.
Ils gèrent leur stock.
Ils ont pas rajouté un peu. On arrête. Guillaume Dard,
Eric hier, et Rouen disant
je coupe. Allez, coupez les micros, on stop.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.